Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1989, Serge Danet recevait Jacques Rivette dans Microfilm à l'occasion de la sortie de la bande des quatre. Un Jacques Rivette très disert qui raconte la genèse de ce film, depuis ceux qui l'ont précédé, Le Pont du Nord, L'Amour par terre et Hurlevent, du cheminement de l'idée, des problèmes et des opportunités de production, jusqu'au choix des comédiennes avec les défections de Jeanne Moreau, d'Anna Chigoula et les hésitations de Bulogier. Cette fois encore, comme dans bon nombre des films de celui qui se décrit comme un drogué de cinéma, le théâtre tenait, dans la bande des quatre, une place centrale. Cette rencontre entre le critique et le cinéaste, qui, comme toujours quand il recevait Garel, Godard ou d'autres, est l'occasion pour Serge Danet de tenter de savoir où on en est alors avec le cinéma.
Microfilm. Microfilm, bonsoir. Après d'innombrables aventures elles-mêmes rivettiennes, la rencontre au sommet avec Jacques Rivette a lieu. Alors elle a lieu d'autant plus agréablement que le film dont il est question, La Bande des Quatre, marche. Et on est vraiment très content qu'un film qui commence modestement gagne en seconde semaine, puis en troisième semaine, ce qui prouve que c'est bien le cinéma.
C'est un film de 2h40 sorti dans 4 petites salles.
Voilà, donc des informations tout à fait concrètes.
Et qui ne fait que donc 3 séances par jour.
Voilà, donc on avait décidé avec Jacques Rivette, qui était déjà venu une fois à Microfilm pour parler de Hurlevent, de faire 2 émissions. Donc la seconde passera la semaine prochaine. La seconde sera sujet libre, on parlera du cinéma tel qu'il est, tel qu'on le sent, tel qu'on a envie d'en parler. La première sera évidemment consacrée au film qui est déjà dans les salles, qui est, à mon avis, alors là je dis d'emblée comme ça, d'entrée de jeu, à mon avis, le meilleur film de Jacques Rivette depuis Le Pont du Nord, moi qui est le film que j'aimais beaucoup, et puis j'avais un peu des réticences sur les deux d'après. Je trouve que celui-là est une sorte de mise à jour, alors je dirais un peu pourquoi, comme ça en cours de route, une sorte de retour à la case départ très, très rigoureuse. Et le fait que ça puisse intéresser des gens, ça fait vraiment très plaisir. Donc Jacques, merci d'être enfin venu à Microfilm, parce que on racontera pas l'histoire de nos rendez-vous ratés, mais elle est elle-même très très rivettienne. Maintenant que le film est déjà dans les salles et que bon, il a son existence propre, bah je commencerai par une question peut-être un peu inédite pour toi. C'est comment tu vis avec le fait que ça intéresse des gens. Toi, tu fais des films d'une façon très personnelle, dans ton coin, etc. Tu n'as jamais soudoyé ou séduit le public. Tu ne l'as rencontré un peu que par malentendu ou par hasard des fois. Ça ne t'empêche pas de travailler. Donc là, il y a une rencontre. Bon, alors c'est l'histoire de 4 jeunes filles, 5 on devrait dire d'ailleurs plutôt, qui sont dans un cours de théâtre et puis qui sont mêlées à la fois à une histoire vaguement policière et puis qui apprennent à la fois le théâtre et la vie. Donc on ne peut pas en dire plus pour le moment. C'est un sujet universel. Et puis en même temps, moi je me dis, alors voyant comme ça quelques films à gauche et à droite en ce moment, des bons et des mauvais, peu importe, le thème de l'apprentissage de la vie par le théâtre revient. Alors, est-ce que tu es conscient de ça? Pour toi et pour les autres?
Je suis conscient du fait qu'effectivement, il y a beaucoup de films actuellement qui sortent, qui se trouvent être sur l'apprentissage. Il y en a d'autres qui sont à l'apprentissage de la musique. Par exemple, il y a Coup sur coup qui sont sortis, Le Maître de musique qui est sorti il y a 15 jours, et le film avec Schlesinger avec Shirley MacLaine qui sort cette semaine.
Bon, et ça, tu pourrais ajouter le film de Mieville où il y a
le film de Mieville où il y avait, qui d'ailleurs à mon avis est infiniment meilleur que Le Maître de musique, à la fois en tant que film et sur le chant, parce que d'abord il est fait en son direct. Et puis ensuite, parce que c'est une vraie chanteuse qui chante, devant un vrai professeur.
Et bon, dans une scène magnifique,
est 10 fois plus beau. Alors que Le Maître de musique, c'est un beau sujet, à mon avis, qui est resté de la télévision, qui n'est pas devenu du cinéma.
Donc ça, c'est l'apprentissage, et il y a le théâtre.
Et je n'ai pas encore vu le film avec Shirley MacLaine, qui semble-t-il plein... Bon, est poncif, mais j'irai le voir parce que j'aime bien Shirley MacLaine. J'ai envie de la voir en pianiste, même si ben, elle tape, paraît-il, parfois sur la touche d'à côté. Mais enfin, bon...
Tu y vois quelque chose d'un peu collectif comme ça, et toi là-dedans, finalement, synchrone,
Moi, j'ai eu envie. Enfin, je veux dire, c'est un sujet auquel je pense depuis longtemps. C'est venu peut-être après Le Pont du Nord. Je me souviens plus si c'était venu avant ou après Le Pont du Nord. Qui Le Pont du Nord était un film également sur deux générations avec Bulle et Pascal Augier. L'idée de départ du Pont du Nord, c'était le principe du western, la personnage expérimentée, au contraire le pied tendre. Et on a d'ailleurs cherché assez longtemps avec Bulle et Pascal comment on concrétiserait dans Paris et de façon contemporaine en France, parisienne, puisque comme on était pauvre, le film devait rester parisien, ce principe de western, le plus âgé, le plus jeune, etc., l'expérience et l'inexpérience et tout et tout. Bon. Et je ne sais pas, c'est peut-être ça qui m'a inconsciemment fait penser à repenser après au vieux film d'Allégret Janson, Entrée des artistes, qui d'ailleurs, entre nous soit dit, n'est pas bien fameux. Mais enfin, bon, il y avait Jouvet qui faisait illusion et qui fait toujours illusion, même si les séquences que j'ai revues, c'est la seule chose que j'ai revue, c'est les séquences du cours de conservatoire de Jouvet. Et c'est c'est dommage que ce soit la seule chose qui ait été enregistrée de Jouvet faisant son cours au conservatoire, parce que c'est vraiment une caricature de ce qu'étaient les vrais cours de Jouvet qu'on connaît par les deux livres magnifiques publiés chez Gallimard et le spectacle également magnifique de Brigitte Jacques, Elvire Jouvet 40. Et donc c'était une idée assez comme ça qui me trottait dans la tête depuis quelques années. J'avais très vite pensé à une comédienne et non pas un comédien pour être le personnage du professeur. J'avais très vite pensé à Jeanne Moreau pour être cette comédienne expérimentée et prestigieuse, donnant des cours à des jeunes élèves. J'avais d'autant plus vite pensé à Jeanne que j'avais eu un projet 10 ans avant, en 72-73 avec Jeanne, qui s'appelait Phénix, titre provisoire, qui est un film qu'on avait donc essayé de faire pendant plus d'un an avec Jeanne, et qu'on n'avait pas pu faire parce que le film était... Bon, c'était avec Jeanne, avec Juliette, avec Juliette Berthaud, avec Michael Lonsdale, avec Pierre Clémenti. Mais les rôles principaux, c'était surtout le rapport entre Jeanne et Juliette. Et ce film n'avait pas pu se faire pour des raisons purement financières. C'était un film en costume autour du mythe de Sarah Bernhardt. Non pas de la réalité de Sarah Bernhardt, mais du mythe de Sarah Bernhardt qu'on mélangeait avec le fantôme de l'opéra. Bon, c'était assez amusant. Mais c'était donc un film en costume, se passant très précisément en 1895, et qui demandait la construction d'un décor. Le reste pouvait être tourné entre les coulisses de l'opéra comique, celle de l'Odéon, on pouvait faire un montage. Mais il y avait quand même un décor central qu'il fallait construire, qui était censé être justement l'appartement de la comédienne construit à l'intérieur du théâtre, comme Sarah Bernhardt avait son véritable appartement dans l'ancien vrai Sarah Bernhardt, qui a malheureusement été démoli depuis. On a gardé la coque et on a fait à l'intérieur quelque chose qui est, à mon avis, parfaitement abominable. Passons. Et bref, on n'a pas réussi à monter ce film parce que c'était un film qui, en 73, aurait coûté 4 millions de l'époque. Et on en avait trouvé un entre l'avance sur recette et une coproduction avec TF1. Enfin, ça s'appelait pas TF1 encore à l'époque, mais la première chaîne. Et puis le reste, même en se mettant tous en participation, ça complait pas le trou. Donc c'est là où on a abandonné le projet, c'est là où j'ai dit à Jeanne, on était tous très tristes, mais enfin on s'est séparés en disant on essaiera de trouver un autre projet plus tard. Et j'ai téléphoné le lendemain à Juliette en lui disant voilà, on peut pas faire le film, mais on va essayer d'en faire un autre, très pauvre, essayons de trouver une idée très vite pour tourner quelque chose cet été. C'est comme ça qu'on 2 mois après, on a fait Céline et Julie. Après Le Pont du Nord, vers justement 81-82, j'ai travaillé avec Suzanne Schiffman et Marie-Lou Parolini. On a travaillé comme ça, on se voyait tous les week-ends, tous les samedis après-midi chez Suzanne. Et j'avais deux idées à la fois. C'est toujours mauvais signe d'ailleurs. Donc cette idée-là, de professeur de théâtre avec Jeanne d'emblée, et une autre idée pour une autre comédienne devant se passer à New York. Et l'autre comédienne était d'accord sur le principe. C'est une comédienne avec qui j'avais envie de tourner, qui était d'accord sur le principe. Mais j'ai très vite abandonné l'idée parce que je me suis très vite rendu compte que faire un film sur une Française perdue dans New York, je risquais de lui faire du poncif, parce que j'aurais été moi-même perdu, et au bout d'un quart d'heure, on avait le premier quart d'heure qui était amusant, et après on tombait en plein dans les poncifs. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu. Donc j'ai abandonné ça. Et j'ai abandonné également à ce moment-là le projet professeur de théâtre avec Jeanne, parce que on était parti dans une direction très dramatique, très mélodramatique. On était parti dans une direction qui me plaisait pas, surtout après Le Pont du Nord, faire de nouveau un film très dramatique, très morbide. Il était franchement morbide. Ça m'a pas plu et c'est là où j'ai décidé que bon, il fallait que j'essaye de faire une comédie et j'ai repensé à Jane, avec qui j'avais envie de faire un film depuis longtemps. Puis Jane, Géraldine, et donc on est parti sur le projet L'amour par terre, presque en contre-coup de ce, à la fois du Pont du Nord et de ce projet. Sur ce, le temps a passé. L'amour par terre, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, a entraîné le projet Hurlevent. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et le projet Hurlevent a entraîné de nouveau le fait même de faire Hurlevent, d'ailleurs. C'est parce qu'il paraissait un projet qu'on a fait, qui s'est fait assez vite, avec des difficultés au tournage et à l'arrivée, mais le projet lui-même s'est mis en route assez vite. Et pour Hurlevent, j'ai fait ce que j'avais jamais fait jusqu'à présent, mais c'était l'idée de départ pour Hurlevent, de le faire avec, justement, c'était ça le principe, c'était ça qui m'intéressait, de le faire, contrairement à ce qu'avaient fait avant moi Wyler et Buñuel. Enfin, je ne mets pas du tout sur le même plan le film de Buñuel et le film de Wyler, inutile de le dire. Donc, l'idée de départ, c'était de faire, encore une fois, ce qui n'était pas une adaptation, qui était une transposition du livre de Brontë, d'Emily Brontë, dans une autre époque et dans un autre cadre, et de le faire avec donc des comédiennes, des comédiens ayant à peu près l'âge des personnages du roman d'Emily Brontë, c'est-à-dire pas tout à fait aussi jeune, puisque quand la première Catherine meurt dans Emily Brontë, elle a 19 ans. Et Heathcliff a un an de plus qu'elle seulement. Donc là, j'ai tourné avec mais quand même, j'ai cherché effectivement des comédiennes et des comédiens très jeunes, de 19, 20 ans, pour faire justement les rôles principaux. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé, puisque Alice de Pongeville, qui fait Isabelle, qui est un rôle très important, complètement escamoté dans les autres versions, autant qu'ils m'en souviennent. C'était aussi l'idée, c'était de garder également très important les personnages qui ne sont pas secondaires. Enfin, je veux dire, le frère de Catherine, la sœur d'Edgar, enfin, personnage essentiel dans l'histoire d'Emily Brontë, qui est une histoire polyphonique quand même, c'est pas du tout une histoire où l'histoire d'amour Catherine Heathcliff est le fil rouge d'un roman qui est lui-même très polyphonique et qui se passe sur 30 ans et même plus 40 ans et deux générations, etc. Bon, on n'allait pas tout garder, mais je voulais quand même garder le fait qu'il y ait 6 ou 7 personnages importants, dont Catherine et Heathcliff, qu'on rebaptise Zérok. Effectivement, Alice de Pongeville, qui à l'époque n'avait absolument pas tourné, elle avait juste 15 ans quand on a tourné le film. Donc elle a exactement l'âge qu'a Isabelle au début de l'histoire de Emily Brontë. Et Fabienne et Lucas avaient peut-être 1 ou 2 ans de plus que les personnages réels, mais enfin bref, ils avaient 21 ou 22 ans, quoi, maximum. J'avais fait un certain nombre de vidéos, ce que j'avais jamais fait de ma vie, et ça m'a donné l'envie de repartir avec ce projet des jeunes comédiennes, des jeunes comédiens. Et donc, quand on s'est remis là des difficultés du Hurlevent, de l'échec du film, puisque ça a quand même été un échec, moi, ce film, je ne le renie pas, même si je considère qu'il est en effet loin d'être réussi, mais il y a des choses dedans que je suis content d'avoir fait. Et l'ensemble du film, je ne peux pas en juger. Et donc, je suis reparti avec Pascal Donizère sur ce projet. Et puis, là, on a trouvé une autre solution pour raconter l'histoire, pour que ce soit une histoire sur un principe voisin, mais quand même moins morbide, donc, etc. On a développé une histoire, on y a travaillé plus d'un an. J'en ai reparlé à ce moment-là, quand ça, j'ai vu que ça commençait à prendre forme, j'en ai parlé à Jeanne, qui a été d'accord. On s'est vu assez souvent, quand même, plusieurs fois, je tenais Jeanne au courant de l'évolution du projet, de la façon dont on a décidé. Et puis, bon, tout s'est préparé pour le tourner à une certaine date, mois d'avril, très précisément au mois d'avril 87. Et puis, bon, il y a eu des raisons financières qui ont fait que ça devenait difficile en avril. Bref, la production a eu du mal à monter. Jeanne elle-même venait de tourner un autre film en Bretagne très difficilement. Elle était en plein Zerline, succès de Zerline, reprise de Zerline et tout. Elle a demandé à ce qu'on recule ça de 3 mois. Bon, moi, j'étais pas très content de reculer de 3 mois, mais tant la production que Jeanne étant d'accord pour dire ça sera mieux de le faire dans 3 mois, j'ai dit bon, bah d'accord, faisons-le dans 3 mois. Et puis dans ces 3 mois, Jeanne a disparu dans un trou noir. Mais elle est vraiment disparue dans un trou noir. J'ai eu aucune nouvelle. Et c'est son agent qui a téléphoné à Martine en disant un jour qu'elle avait, elle cessait de faire le film, et puis sans explication. Et voilà, donc on a pris acte de ce fait. Bon. Je ne sais pas qui faisait qu'il n'y avait aucune raison de demander l'explication, puisque on ne nous la donnait pas. Enfin bref, passons. Et donc, après avoir hésité un moment, après avoir proposé le rôle à une seule comédienne, qui d'emblée aurait tout décalé, mais en fait, quand je lui proposais, je savais qu'à l'avance qu'elle ne le ferait pas, parce qu'elle était très différente, enfin, c'est Anna Chigoula, qui a de reposer, je savais à l'avance qu'elle ne le refuserait, puisque, pour une raison très simple, elle m'a dit qu'elle m'a dit tout de suite elle-même, un film qui était centré sur une comédienne parlant, enseignant à ses élèves Racine, Marivaux, Corneille, etc., oui. C'était très loin d'elle, et que même, même si ça avait été un film en allemand, d'un metteur en scène allemand, où ça aurait été, au lieu d'être Marivaux et Racine, ça aurait été Schiller et Kleist et, je ne sais pas, Goethe, etc., elle aurait également refusé dans la mesure où elle-même ne l'avait jamais fait, que bien quand sûr. Elle avait rencontré Fassbinder, effectivement, Fassbinder qu'elle avait rencontré dans le bistrot où Fassbinder, Schmitt et toute la bande se donnaient rendez-vous, et elle-même était dans ce bistrot, etc., et c'est comme ça qu'elle a été engagée dans les premiers spectacles, dans l'arrière-salle du bistrot. Et après, il y a eu un stade où Fassbinder lui a dit éventuellement, on va quand même voir dans un cours. Il l'a envoyé dans un cours et puis elle s'est retrouvée avec, à prendre Penthésilé et elle a fichu le camp. Elle dit maintenant, effectivement, ça m'intéresserait de travailler Penthésilé, ce qu'elle fait d'ailleurs. Mais, et donc, voilà. Cela dit, c'était très agréable. J'ai passé 3 jours avec Anna Chigoula à Budapest pendant qu'elle tournait le film avec Mastroianni. C'était très agréable. J'ai tout de suite compris ses raisons et d'ailleurs, en fait, je les prévoyais à l'avance. Bien. Disons que c'était le refus d'Anna Chigoula était un bon moyen de dire on stoppe ce projet clairement, définitivement, on n'essaye pas de trouver une sous Jeanne Moreau, parce que finalement ça n'existe pas. C'était déjà ce film, je l'avais pensé pour Jeanne, déjà vaguement pendant plusieurs années et très précisément pendant plus d'un an. Mais par contre, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait été très loin dans la préparation du film, puisqu'on a décidé de reculer 10 jours avant la date du tournage. C'était très dur, toute l'équipe était engagée, tout le monde était prêt. C'était vraiment une décision à laquelle j'ai essayé de m'opposer tant que j'ai pas pu, parce que j'étais pas tout seul. Tout le monde était engagé, toutes les jeunes comédiennes pour le cours, et pour être justement les jeunes comédiennes ayant soit des rôles importants, des rôles secondaires ou moins importants, mais enfin bon, c'était le même principe que pour la bande des quatre. Mon assistante, on a vu je sais pas combien, elle a été dans plein de cours, elle en a vu 300, 500, moi j'en ai vu 150 dans le bureau de Martine, sur les 150, j'ai fait des vidéos avec la moitié, même plus, j'ai dû faire 80 vidéos, certaines qui étaient très brèves, à toutes, je disais, venez devant la caméra avec toutes celles qui me semblaient intéressantes, sympathiques, curieuses, je ne savais pas. Bon, je n'allais pas m'attarder à discuter dans le bureau avec elles. Je leur disais, venez devant la caméra vidéo en apprenant une petite tirade de Racine et une petite tirade de Musset. Je savais déjà à l'époque que la pièce qui serait travaillée serait La double inconstance. Mais il n'y a pas de tirade, justement, dans Marivaux. Où il y en a très peu. En fait, il y en a dans d'autres pièces de Marivaux. Par exemple, il y a de gigantesques tirades dans la première scène du Prince Travesti, ce que je sais maintenant, puisque ça fait 4 mois qu'on travaille le Prince Travesti entre nous, mais pour le monter, d'ailleurs, on ne sait pas quand. Mais dans La double inconstance, il n'y en a pas. Et donc, j'avais dit Racine et Musset. Bon, un certain nombre des comédiennes qui venaient, bon... Après la tirade de Racine, parfois je disais, c'est même pas la peine de faire Musset. Bon, parfois je faisais les deux et puis je disais, bon, merci mademoiselle. Et puis d'autres qui étaient au contraire intéressantes, à ce moment-là on s'asseyait et je me mettais à parler avec elles en fonction un petit peu de 5 ou 6 des rôles qui étaient prévus dans le film. Enfin, le rôle qui à l'époque était le rôle principal par rapport à Jeanne et des rôles secondaires plus ou moins un petit peu clichés qu'il y avait autour. Et donc je parlais avec elles et puis c'est comme ça donc, que j'ai fait connaissance avec celle qui me semblait la plus intéressante et que 3 mois plus tard, quand Jeanne passait donc dans un autre espace, un autre temps, un autre univers, on se retrouve... Mais il y avait quand même un peu d'argent de l'avance sur recette. Il y avait un peu d'argent, même pas mal, un petit peu plus d'argent de la 7 pour être coproducteur. C'était quand même idiot de pas... Et d'autre part, il y avait... ce projet de film que j'avais depuis des années quand même, d'un film sur le cours de théâtre. Et surtout, ces 10-15 filles que j'avais déjà gardées de l'ancien projet que j'avais sélectionné à l'époque. Et donc j'ai eu envie de repartir sur 4 ou 5, les 4 ou 5 qui m'avaient... Il y en avait 6 ou 7 en fait, mais une, je savais d'emblée qu'elle était qu'elle serait prise. À l'époque, j'ai demandé à mon assistante, renseigne-toi, quelles sont celles en octobre Bon, alors tout de suite, elle m'a dit une telle qui nous plaisait beaucoup, mais elle a déjà un gros projet à ce moment-là. Donc on ne lui a même pas demandé, puisqu'elle avait un gros projet. Mmh. Mais les autres qui étaient disponibles, on s'est réunis. J'ai fait comme je fais d'habitude dans ces cas-là. Je les ai appelés, on s'est dit, allez, voyons-nous. Même Inès, qui était à Lisbonne, est revenue à Paris pour une semaine. Et on s'est réunis comme ça pendant une semaine dans le bureau de Martine ou chez Pascal pour commencer donc à chercher le principe, les personnages et tout. J'aurais dit, voilà, vous allez chacune faire votre personnage et puis... Et voilà.
Ce que tu ne dis pas, c'est comment finalement c'est Bélogier qui a joué le rôle de Jeanne Moreau.
Mais ça, c'est venu très tard, parce que bon, donc la décision que j'ai prise à ce moment-là, ça a été, le premier scénario, c'était entièrement sur le personnage de la comédienne prestigieuse, expérimentée, qui donne les cours. Donc le film se passait presque entièrement dans les deux espaces, d'une part du petit théâtre où elle donne ses cours, et d'autre part de l'appartement du dessus où elle vit. Mmh. Là, donc la première décision qui a été prise, évidemment... Ça a été de ne jamais aller dans cet appartement du dessus, de ne voir la comédienne que dans l'espace du cours, du théâtre où elle donne ses cours, et au contraire que le deuxième décor, l'autre décor clos, ce soit l'appartement où, très vite, plutôt qu'un appartement dans Paris, j'ai eu envie que ce soit une maison en banlieue, où elles vivent à 4 ou 5. Mmh. Voilà. Et je suis parti des filles SG. Attendu assez longtemps pour me poser la question qui va être le professeur. Et là, j'ai hésité, et puis j'ai hésité entre deux, trois comédiennes, toutes des comédiennes avec qui j'avais déjà tourné d'ailleurs. Et puis finalement, tant qu'à le demander à une comédienne avec qui j'ai déjà tourné, très vite, j'ai eu envie que ce soit Bulle, enfin je veux dire, que ce soit notre sixième film.
Mais j'aime bien le tant qu'à, parce qu'il y a quand même une sorte de logique... objectif qui finit par se faire jour. Donc oui, fait que tu aies pris, donc repris...
Mais je savais que Bulle serait très réticente. Elle a été très réticente, oui, Bulle. Oui. J'étais obligé de la voir plusieurs fois pour la convaincre. Et elle est arrivée sur ce tournage avec une grande panique, une grande crainte. Elle est toujours... Bon, Bulle est quelqu'un qui est toujours très inquiète, angoissée et tout. Mais elle le montre plus ou moins. Là, elle était... La panique, l'angoisse était plus que montrée. Elle était mise en avant. Mais c'était bien parce que ça nous obligeait nous-mêmes à lui donner complètement un personnage complètement clé en main, si j'ose dire.
Oui, c'est ça.
Et bon, dont on avait parlé, évidemment. Quand même auparavant, elle nous avait apporté des idées sur ce qui lui plaisait, sur ce qui lui plaisait pas, sur ce qu'on allait faire de Constance. On lui a pas donné au premier jour de tournage des dialogues qui ne correspondaient à rien. Et ça correspondait quand même à ce dont on avait parlé pendant les quelques semaines précédant le tournage avec Pascal et Christine. Christine à Laurent, justement, j'ai eu envie de que Christine Laurent vienne avec Pascal et moi. D'une part, à partir du moment où le rôle de théâtre est devenu très important, à partir du moment où on a décidé de faire un film sur justement les jeunes comédiennes entre elles, j'ai eu envie, ça m'a semblé indispensable que pour éviter des grosses conneries qu'on risquait de faire, Pascal et moi, qui est quand même un point de vue féminin sur l'affaire. Et en plus, que ce soit Christine qui connaît bien le théâtre parce qu'elle a fait un trajet par d'abord costume, décor, etc., mais quand même à travers plein de metteurs en scène, de théâtre, tous, que ce soit Chéreau, que ce soit Vincent.
Mais alors, bon, finalement, il est possible de... Évidemment, de regretter le film que tu aurais pu faire avec Jeanne Moreau, parce que ça aurait été...
C'est un autre film, c'est comme...
Une sorte de rencontre inattendue. Et en même temps, reprenant Bulogier, déjà fait tourner depuis L'Amour fou, Inoubliable, et déjà assez ancien, tu as aussi affaire à une nouvelle Bulogier, parce que des choses se sont passées, parce que, comme tu l'as dit, elle avait peur. Et deuxièmement, alors moi je trouve que c'est une des grandes qualités du film, c'est que Bulogier, pour la première fois à mon avis, joue le rôle d'une femme de son âge, qui a nettement, donc une génération de plus que les jeunes filles, qui le joue avec une violence comme ça, à la fois apeurée et terrifiante, les deux à la fois, elle a peur et elle fait peur. tout à fait impressionnante, et que finalement, prenant une des pièces de ton jeu habituel, parce que Bélogier fait partie de ton univers habituel, tu découvres une nouvelle Bélogier, tu la découvres, et tu la permets de se découvrir aussi, et elle joue un rôle tout à fait impressionnant, où elle n'est pas très très souvent, enfin il n'y a pas qu'elle dans le film, mais elle est un des pôles absolus du film. Et
C'est que effectivement, en termes de longueur de pellicule, le rôle de Bull est pas long.
Il est moins long que celui de Benoît Régent.
Mais d'une part, il est très important parce que d'abord, je crois que chacune de ces scènes est forte. Enfin, je le dis d'autant plus que je ne m'en sens pas. Je sais que
faut le dire. Il faut le dire.
J'en suis loin d'en être le seul responsable. Au contraire. Et surtout, bon, c'est un personnage dont on parle beaucoup tout du long, mais effectivement, quand on parle d'elle, quand on dit Constance Dumas ceci, Constance Dumas cela, je crois qu'en effet, ça répond, ça c'était indispensable pour l'histoire, ça répond à quelqu'un dont, quand on le voit, il est à la hauteur de sa légende. Ça, c'est le sixième film que je fais avec Bull, et quand même, je crois que les six personnages qu'on a fait dans les six films sont tous différents. Peut-être que celui-là, c'est plus marqué pour le rôle de Constance Dumas que par rapport à d'autres, mais que ce soit Bull, que ce soit dans Out, dans ses dans le duel, dans le pont du Nord, dans celui-là, et dans l'amour fou, bien sûr, c'est six personnages très différents. Mmh. Bon, où à chaque fois, d'ailleurs, on a pris des partis pris de coiffure, de costumes, de façon même de parler, de langage, tout différent. Et déjà, le pont du Nord était un personnage, bon, pas aussi marqué par rapport à l'âge réel que Constance Dumas, mais quand même volontairement, d'ailleurs en plus parce que c'était le principe du tournage où Bull avait tourné, c'est la seule fois de tous les films que j'ai fait avec elle, et même je crois de tous les films qu'elle a jamais tourné, où Bull a tourné sans maquillage et sans... Et sans coiffure, perruque ou postiche ajoutée, avec ses cheveux réels, parce que comme on tournait dehors, dans le vent, éventuellement sous la pluie, on n'a pas eu de pluie, mais on ne le savait pas à l'avance, mais on a eu beaucoup de vent par contre, et c'était pas possible. Donc, elle était avec une lumière, la lumière du jour, tout le temps, et rigoureusement sans autre maquillage qu'un maquillage de ville.
Ce que je voulais dire, c'était que... Là, je prends un peu de recul. Les cinéastes de la Nouvelle Vague ont été toujours assimilés à une idée de jeunesse. C'était la jeunesse par rapport à la vieillesse dégoûtante dans les années 50. Mais évidemment, 30 ans après, eux-mêmes sont devenus plus vieux. Et il y a un truc extraordinairement...
Excuse-moi, je fais une toute petite parenthèse. Vas-y. Les cinéastes de la Nouvelle Vague, il y avait Franju dedans, qui était loin d'être un jeune homme.
C'était pas vraiment la Nouvelle Vague. T'exagères.
Ah, il était...
C'était une sorte d'oncle, de pionnier ou de précurseur.
Oui.
Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas aux acteurs. Donc, c'est pas du tout le problème que Truffaut, Godard, toi ou Romère avaient eu à affronter. C'est que non seulement vous avez commencé par, assez logiquement, raconter l'histoire de gens jeunes, mais qu'au fil des années, même si vous vieillissiez, et ça c'est un point commun aux quatre, sauf Truffaut est mort, c'est de continuer à s'intéresser aux jeunes. Or, il y a un moment où quelque chose est inévitable, c'est qu'il faut aussi intégrer dans les histoires qu'on raconte des gens dont on se sent plus proche puisqu'on vieillit. Donc ils sont des gens plus vieux. Or, ça me frappe terriblement que pour les quatre, ou plutôt les trois survivants sous-nommés, il y a une véritable réluctance, enfin une véritable peur, je crois, de filmer des gens plus vieux qu'eux, ou plus vieux que les autres. Et moi je pensais, alors c'est très personnel, mais on en parle très ouvertement, ça me gênait dans Hurlevent, ça me gênait un petit peu dans L'amour par terre, qu'il y avait un moment où c'était plus possible de continuer à célébrer par le film une génération, qu'elle soit des gens de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, et qu'il fallait, toi qui es un grand renoirien, tu le sais très bien, qu'il fallait renouer avec quelque chose qui avait été la force du grand cinéma classique, qui était de loger trois générations dans la même histoire. Chose que les cinéastes aujourd'hui ont beaucoup, beaucoup de mal à faire. Et je trouve, alors moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup la bande des quatre, c'est que pour la première fois, il y a une femme qui a un rôle très important, donc qui s'occupe de ce cours de théâtre, qui a son âge, qui est au-delà de 40 ans, qui est très impressionnante, qui terrifie, en tout cas qui a une sorte de charisme sur ces jeunes pensionnaires. Il y a aussi un garçon dont on va parler après, qui est Benoît Régent, enfin qui est un homme, qui est un personnage formidable. Et je trouve que pour la première fois depuis assez longtemps, dans ce que tu fais au cinéma, il y a la prise en compte, je dirais, alors pour être un peu vulgaire et provocant, de la biologie, c'est-à-dire le temps passe. Et à mon avis, la force du film, et peut-être l'une des raisons pour lesquelles tout d'un coup il rencontre plus le public que les films d'avant, c'est qu'on peut se reconnaître, ou on peut se situer, on peut se repérer comme individu dans une histoire où il y a évidemment 20 ans de différence d'âge, et c'est plus le compagnonnage, la camaraderie sympathique, la bande gaucho, la bande de théâtreuse, dont tu as tiré les plus beaux effets, mais qui aujourd'hui, quand même, bon, évidemment, n'est plus aussi évident qu'avant. Alors, je ne sais pas, si c'est pas une question que je te pose, mais est-ce que tu ne penses pas que là, tu as résolu quelque chose de, par lequel il fallait finalement passer ? C'est-à-dire, un homme et une femme, deux adultes, 5 adolescentes plus d'autres, et puis, off, le réel, le social, le terrorisme, la politique, bon, ce que tu as toujours continué à suivre, mais disons, d'un regard de biais. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de régularisation de la situation ?
Oui, sans doute, mais enfin, je veux dire, c'est pas une idée si volontaire que ça. Je me suis pas réveillé un matin en me disant,
bien sûr,
je vais
bien
cesser de faire des films. Mais c'est vrai que, bon, je suis d'accord avec toi quand tu parles du côté un peu artificiel de L'amour par terre.
C'est voilà, vrai moi que c'est un film très brillant, qui mais était qui fait, reposait qui était sur une hypothèse que tout le monde avait le même âge éternellement.
Qui était fait sur l'artifice dans tous les sens et dans des miroirs face à face. Bon, L'amour par terre, de toute façon, moi j'aimerais un jour qu'on montre quand même la vraie version de L'amour par terre, qui durait 3 heures en fait. La version qui est sortie est une version de 2 heures, qui donnerait un ton différent de l'ensemble. C'est un film qui est moins systématique dans la version de 3 heures et dans la version de 2 heures, mais ça ne change pas ce dont tu parles, parce qu'il y a effectivement un personnage un peu plus jeune qui joue un rôle plus important dans cette version de 3 heures, mais qu'on n'a pas complètement réussi. Donc, justement, on n'a pas... Bon, c'est vrai que, de toute façon, c'était un film qui était entièrement fait sur l'artifice du début à la fin. C'était presque le... Je n'y parlais pas le sujet, mais en tout cas...
Ah oui, c'était le sujet même du film.
Ah oui. Et Hurlevent, qui m'avait intéressé dans
jeune.
Hurlevent, c'était au contraire...
Un homme très jeune.
Très jeune, dans la mesure où on ne gardait que la première moitié du roman d'Emily Brontë, non pas que la deuxième partie ne soit pas très belle, mais alors là, du coup, ça aurait été il aurait fallu envisager un film de 6 heures, on n'en avait pas la possibilité économique, et ça aurait posé des problèmes, en plus, des problèmes qui se posent qui sont pratiquement toujours insolubles. Comment montrer un personnage, d'abord à 20 ans, et ensuite à 40 ans, sans faire d'affreux maquillages, ou de prendre un autre acteur qui ressemble pas vraiment au premier, ou des choses comme ça. On aurait eu ce problème là pour le personnage Heathcliff Rock, qui est quand même le personnage central. Les autres, non, ils meurent ou on les voit moins. Si, il y a Edgar quand même qui est dans les deux parties aussi, qui vieillit également. Donc, Hurlevent, c'était le principe même du film, pour être justement essayer d'être fidèle à ce côté-là, ce point-là du roman d'Emily Brontë. Non, là, j'ai eu le sentiment plutôt de renouer, comme je te le disais tout à l'heure, avec le principe pris d'une autre façon, bien entendu de façon plus systématique, plus concrète, plus quotidienne, mais à l'intérieur quand même d'un contexte extrêmement étroit, puisque les cours de théâtre, on peut dire que c'est une micro-société. Donc on essaye d'en faire une métaphore, ce qu'on a essayé de faire d'une société plus large. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dans les cours de théâtre, et en plus comme entre-temps, ce qui m'avait d'ailleurs donné envie de repartir sur ce projet, c'était justement de voir la pièce de Brigitte Jacques et Elvire Jouvet-40. Il ne s'agissait pas une seconde dans notre film de faire un sous Elvire Jouvet-40. Donc, on a, dès le début, dès qu'on a commencé à en parler avec Pascal et Christine, on a dit on fait l'impasse sur le côté technique du théâtre parce qu'on ne va pas faire une sous Jouvet, ce ne serait pas vrai. Le seul moment un petit peu de technique théâtrale, si j'ose dire, on l'a volontairement fait en gag, c'est la scène du regard. Et le reste, on s'est dit, Constance Dumas, dans ce qu'on verra de cours, ne parlera que de morale à ses élèves, pour leur dire 3-4 choses très simples, très précises, d'ailleurs des choses très utiles pour justement non pas passer une audition 6 mois après devant un metteur en scène, mais pour au contraire avoir une vraie vie de comédienne pendant 30 ans ou 40 ans, c'est-à-dire comment vivre sa vie avec le théâtre, avec ce que ça représente, 3 ou 4 choses que je crois vraies, enfin pour effectivement avoir une vie de comédienne, mais qui justement, comme ce sont des choses très générales, je crois qu'elles peuvent aussi, et c'était ça qui m'intéressait dans ces 3 ou 4 sentences, pratiquement, puisque c'est presque des sentences cornéliennes, ou enfin, en tout cas classiques, qui donc peuvent éventuellement faire écho dans la vie des personnes qui ont des vies privées très différentes, qui travaillent dans un bureau ou qui vendent des chaussures, ou j'en sais rien. Bon, je crois qu'il y a... Il n'y a pas 36 formules.
Absolument, oui.
Il n'y en a que quelques-unes. Alors, je ne dis pas que Constance dit tout sur la vie et comment vivre et comment survivre, mais elle dit deux, trois choses, encore comme dit Jean-Luc, deux, trois choses qui sont bonnes à savoir.
Alors moi, j'ai une théorie sur le film. C'est pas une théorie, c'est, je trouve que ce qui est beau dans ce film, c'est deux choses. D'abord, dans sa durée donc concrète, donc on est spectateur, on voit le film, il se déroule, c'est qu'on n'est jamais totalement pris, et en même temps, on ne peut pas ne pas avoir envie de voir la séquence d'après. Donc c'est un film dont le sujet serait la curiosité. Comme on dit, c'est un vilain défaut, ou au contraire, c'est la base même de toute démarche intellectuelle. Donc on voit jusqu'au bout ce film dont on sent très bien en cours de route qu'il n'y aura pas de mot de la fin. En plus, quand on te connaît un peu, on sait qu'il n'y en aura a fortiori pas. Néanmoins, on s'en voudrait de partir avant la fin.
Il y en a un quand même.
Oui, mais il est très emblématique, disons. C'est pas...
Il n'est pas nouveau. Il fait partie également des formules de base.
Voilà, c'est plutôt... C'est toujours, on finit par un des deux, trois...
The show must go on. Effectivement, c'est pas nous qui avons inventé The show must go on.
Voilà. On n'a pas inventé ni Cécile B2000, ni Renoir... Ils l'ont fait avant nous. Deuxièmement, il y a quelque chose que je trouve formidable. Alors, c'est toujours dans ce que j'appellerais la topobiologie de ton film. C'est qu'on a parlé un petit peu des jeunes comédiennes. On a parlé un petit peu de Constance. Il y a un autre personnage dans le film qui est tout à fait réussi, qui est joué par Benoît Régent. Je dirais pas quel rôle il joue, parce qu'il a tellement de prénoms. Enfin, c'est Thomas, je crois.
Le vrai, c'est Thomas.
Le vrai, c'est
Thomas. Celui, en tout cas, qu'il a sur son pas, la carte de policier qu'il montre à Joyce. Mais on peut penser, comme il nous a dit avant, qu'il était très fort pour faire des faux papiers, on peut penser aussi que cette carte de policier est fausse également.
Voilà. Donc, si tu veux, s'il y a un cliché qui circule sur toi et sur les films que tu fais, c'est cinéma et théâtre. Alors bon, d'accord, je sais bien que tu aimes beaucoup le théâtre et que tu es fou de cinéma, mais ça me paraît plus compliqué que ça. C'est-à-dire que dans le film... Il y a quelqu'un qui, plus que représente le théâtre, qui incarne le théâtre, qui est la femme. Et ce qui caractérise le théâtre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que c'est vraiment pas l'espace du jeu, l'espace du double, l'espace du masque, c'est le sérieux absolu, c'est la morale. Et puis il y a un autre espace, qui est l'espace propre du cinéma, qui est de l'autre côté donc de la barrière, qui est représenté par Benoît Régent, qui lui joue tous les tours du cinéma. C'est-à-dire qu'il est métamorphique, il change d'identité, il est à la fois séducteur, mais c'est pas un personnage très très phallique, il est en même temps fort et faible, il finit par reprendre des coups terribles. Et il est le cinéma, donc masculin, le cinéma du côté masculin, rentrant en collision avec le théâtre comme force de résistance absolue, emblématisé par Bulogier, et au milieu, il y a les filles, qui hésite entre le cinéma et le théâtre. Et ce qui est beau dans le film, c'est que l'hésitation est la seule vérité, c'est l'hésitation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de vérité dans un coin que dans l'autre. Il n'y a pas de scène commune entre Benoît Régent et Bulogier. Il y a simplement ces filles qui hésitent, puisqu'elles sont l'une après l'autre, à la fois séduites, circonscrites, sollicitées, etc., par ce type qui est un véritable caméléon. Et je pensais que c'était une façon extraordinaire de dire oui, théâtre et cinéma, d'accord, mais après tout, Wells disait que le seul sujet du cinéma c'était le théâtre, donc c'est pas une idée complètement nouvelle. Mais voilà à quelles conditions aujourd'hui, en 89, moi Jacques Rivette, je raconte une histoire où il y a deux pôles, deux adultes, et t'aimes pas beaucoup les adultes, hein, en général tu les fuis, adultes, responsables, l'un joue, mais c'est son métier, l'autre fait jouer, mais c'est son métier, et entre les deux, des filles très jeunes qui hésitent. Et je trouvais que cette sorte de topologie comme ça fonctionnait à 100%. Alors je ne sais pas si tu peux te reconnaître dans ce que je dis, c'est-à-dire le cinéma c'est le jeu, au sens ludique alors, et le théâtre c'est vraiment du sérieux.
La façon dont tu résumes le film, je ne peux qu'être d'accord, parce que c'était effectivement la matrice de base. Moi, quand je pars dans un film, on sait que... J'écris pas de scénario. Je n'écris pas, j'ai horreur depuis 20 ans, depuis même plus, depuis L'amour fou, du ce qu'on appelle habituellement le scénario. En fait, ce que les Américains appellent plus précisément le screenplay. Moi, je suis au contraire très partisan du scénario, mais dans le sens commedia dell'arte, c'est-à-dire la liste, le catalogue, l'énumération des scènes qui doivent être faites et de leur succession logique. Et c'est ça que j'essaye d'avoir au début d'un film. Je ne pars jamais, même Out, qui est le plus improvisé de tous les films, celui qui jouait sur l'impro sauvage, on avait au départ cette matrice, justement, la liste des séquences à tourner. Simplement, on ne savait pas très bien dans quel ordre on les mettrait après. Mais passons, on ne va pas... Et donc, au départ d'un film, pour moi, je sais que je peux partir, à tort ou à raison, dans un tournage, quand j'ai justement cette matrice, enfin, d'une part, la liste des séquences, mais également avec une sorte de schéma mental. Et là, effectivement, le schéma mental, c'était les deux pôles qui, donc, ne se rencontraient jamais, puisque l'un est positif, l'autre négatif. D'ailleurs, on ne sait pas, chacun d'eux est positif et négatif. À chaque fois, ça s'échange. Les électricités s'échangent.
C'est un champ magnétique.
C'est un champ magnétique. Et entre eux, et effectivement, entre les deux, pour reprendre des métaphores basiniennes, les cinq filles principales, enfin, surtout les quatre, puisque Nathalie Cécile est en dehors, justement, de ce jeu de Tom. Et elle est l'enjeu, elle n'est pas prise dans le... Elle et les autres qui sont donc ces fameuses particules de limaille de fer qui sont dans le champ, puisque cette métaphore des champs magnétiques, c'est une des métaphores que Bazin a le plus utilisée et de façon toujours très juste. En effet, le cinéma fonctionne sur des champs magnétiques. Je crois qu'en effet, quand on fait des films, c'est ce qu'on essaye au départ d'avoir. Et des cinéastes aussi différents que Hitchcock ou Rossellini, oui, la métaphore fonctionne parce que un film, c'est de l'électricité. Aussi.
Alors, moi, je pense qu'il faut arrêter la première émission avec Rivette sur cette phrase admirable. Il y a des champs magnétiques. Un film, c'est l'électricité aussi. Virgule aussi. Je pense qu'on va en reparler la semaine prochaine, parce que là, on commence à parler vraiment de cinéma. Donc, merci Jacques Rivette, et à la semaine prochaine.
Première partie des entretiens de Jacques Rivette avec Serge Danet pour son émission Microfilm a été diffusée pour la première fois le 5 mars 1989. À suivre.